France Culture.
Nana June, ça veut dire chère mamie. June, chère. Ouais, elle nous faisait ce plat quand on allait la voir le week-end. Et tu sais, elle ne me parlait jamais en persan. Elle n'a jamais voulu me parler en persan. Jamais.
Pourquoi elle n'a jamais voulu?
Je pense qu'elle savait qu'on ne comprenait pas, donc elle essayait même pas. Elle nous parlait en français, quoi. Elle parlait en persan à tous ses enfants, par contre. Mon père et ses frères et sœurs, elle parlait en persan. Mais nous, dès que j'essayais de lui parler en persan, elle n'y arrivait pas. Elle rigolait comme elle rigole avec son petit rire, là. Puis hop. Je pense qu'elle avait un peu laissé tomber, voilà. Bon, bah, maintenant, ils sont français, quoi. Voilà, c'est fini. On discutait pas beaucoup, elle m'a pas raconté grand-chose de l'Iran, d'elle, de sa vie. Je savais pas grand-chose. Elle était pas très bavarde, mais bon, voilà, elle rigolait tout le temps, comme ça. Comme si rien n'avait d'importance. Là, c'est cuit, là.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Taxiphone, langue chimère, geste de cuisine et tonalité de transmission, qu'ils se tournent vers le Maroc ou vers l'Espagne des années 30, les deux romans que nous réunissons aujourd'hui autour de la table du Book Club cherchent une langue pour entendre les basses fréquences des traumatismes. Les répressions, quelles qu'elles soient, font taire les voies de l'exil et effacent les chemins qu'aurait besoin, au moins une fois, d'emprunter le présent. Avec Marcher dans tes pas, la romancière Léonore de Recondo insère le portrait de sa grand-mère, résistante, silencieuse, dans un portrait plus collectif de générations marquées par le franquisme et l'exil. Avec Allo Laplace, Nasserat Amer tend l'oreille aux cicatrices silenciées mais encore à vif, des blessures infligées par l'histoire coloniale et migratoire. Les deux romancières sont nos invités aujourd'hui. En fin d'émission, comme chaque mardi, on retrouvera Mathilde Wagman par littérature jeunesse et aujourd'hui elle évoque Cas inédit, un livre écrit par l'une de nos invitées et l'imaginaire infini de l'art préhistorique. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Nasserat Amer.
Bonjour.
Allo Laplace à Paris aux éditions Verdier. Soyez la bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir. Bonjour Léonore de Recondo.
Bonjour.
Marcher dans tes pas à Paris aux éditions de l'Iconoclaste. Bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir. Et puis vous partagez les éditions Verdier avec Nasserat Amer pour un autre texte qui n'est pas sans rapport avec tout ce qu'on va se dire aujourd'hui et qui s'appelle Goya de père en fille. On commence toujours nos émissions par des portraits de lecteurs et de lectrices pour faire connaissance avec nos invités et parler de leur rapport au livre, et cela depuis toujours, on va dire. Et il se trouve que l'une et l'autre, dans vos livres respectifs, vous évoquez le pays des livres depuis lesquels vous parlez, d'une certaine manière, ou en tout cas desquels vous viendriez. Nasserat Amer, vous dites « Je viens de là où il n'y a pas de livre, où il n'y a qu'un livre et peu de papier ». Qu'est-ce que ça a fait de vous comme lectrice, pensez-vous ?
Je dirais que ça a créé une attention particulière à l'objet livre, une attention particulière aux mots, donc parfois teintée de timidité, de peur aussi, et donc un cheminement voilà attentif.
Et cette attention, elle s'est distribuée comment ? Est-ce qu'elle s'est distribuée pas à pas ? Est-ce qu'elle a été au contraire avide et pleine d'appétit ?
Je dirais que ça a été progressif, lent. J'ai appris, vraiment, c'est après le collège que j'ai vraiment eu une adoration pour la littérature, mais jusqu'au lycée, ça a été ça a été timide, je dirais, avec un apprentissage comme la plupart des gens autour de 6-7 ans. Et c'est vraiment l'adolescence qui a marqué le goût fort.
Fort s'est tourné vers quoi ?
C'était surtout les recommandations de certains profs. Quand j'entends pour la première fois parler des frères Karamazov, il y a une telle curiosité que ça, je sais que je vais y aller, je sais que c'est important et c'est absolument décisif.
Et vous y allez ?
Ouais, ça prend du temps, mais ouais, la recommandation, elle joue un rôle très important. C'est ces personnes qui jouent le rôle de passeur. À un moment donné, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un qu'on apprécie, un enseignant, Et ça a créé comme des balises, des repères sur lesquels je me suis appuyée.
Vous parlez de monstres qui sont dans les livres pendant l'enfance, Léonore de Récondeau. Dans ce livre Goya de père en fille, vous réfléchissez à finalement une autre transmission que celle à laquelle vous réfléchissez dans Marcher dans tes pas. Mais c'est très intéressant d'ailleurs de pouvoir lire les livres en parallèle parce qu'ils parlent de vous justement peut-être dans ce moment-là, à la fois de votre écriture et de votre vie. Quel genre de monstres étaient dans les livres et dans quel genre de bibliothèque dans votre enfance ?
Alors, la bibliothèque dont je parle dans Goya de père en fille, c'est vraiment la bibliothèque de l'atelier familial. Donc, mes parents étant artistes peintres tous les deux, il y avait une grande bibliothèque avec beaucoup de catalogues et de monographies. Et je me souviens de moi toute petite, donc vraiment avant de savoir lire, et je prenais ces livres comme des livres d'images. Et c'est vrai que celui sur lequel je m'arrête dans Goya de père en fille, qui sont les eaux fortes de Goya, les désastres de la guerre, les monstres sont dedans. Et donc il y a une sorte de développement de l'imaginaire, mais qui est le livre qui n'est pas littéraire, qui est le livre d'images, mais qui n'est pas non plus le livre d'images pour enfants, qui est le livre où des possibles, les grands formats qui sont très lourds aussi pour un enfant, de ces livres d'art que mon père utilisait, que mes parents utilisaient très fréquemment. C'était pas des livres sacrés, c'était des livres qu'on sortait, qu'on regardait, qui étaient utile au travail. Donc moi, j'ai vraiment ce souvenir de les feuilleter avant même de lire, et ils ont complètement imprégné mon imaginaire.
Et est-ce que vous avez l'impression que ce premier rapport au livre, donc à la fois l'objet un peu trop grand pour votre corps d'enfant, en même temps des images peut-être elles aussi un peu trop grand pour votre cœur d'enfant, ça a fait de vous une lectrice particulière, ou est-ce qu'il ne faut pas nécessairement y trouver une formation ?
Je sais pas, je pense que c'est difficile d'être tout à fait objectif sur soi-même. Il y avait d'autres livres, ma mère a toujours beaucoup lu. Donc après je suis allée piocher dans d'autres bibliothèques, on me lisait des histoires, donc il y avait ce rapport à l'histoire, à l'imaginaire, au dessin, à la peinture, à la figure, on va dire racontée, qui existait depuis longtemps. Donc je pense que c'est ce faisceau de choses qui fait que l'imaginaire, en tout cas mon imaginaire, s'est petit à petit développé, mais qui était livresque tout de suite dans des formes, vraiment dans toutes sortes de formes. Et pour moi, avoir des livres d'art aujourd'hui, c'est aussi important. Je continue, parce que c'est une sorte d'habitude, je continue d'y puiser de l'inspiration, et aussi par ce format, par ces grands formats, joue encore quelque chose. On rentre dans un livre de manière tout à fait différente quand l'image est très grande que quand il est petit.
Et c'est marrant parce que l'une et l'autre, vous évoquez l'objet livre et la place que ça a eu dans votre parcours. Nasser Atamer, vous dites quand même, je viens d'un endroit où il y a un livre. Quel est ce un livre ? Et c'est intéressant, ça fait office de quelque chose, ça, ce un livre.
Alors oui, je vois le passage. Il s'agit d'un passage dans lequel, en fait, je, sous une forme assez poétique, j'évoque en fait davantage un monde culturel. C'est pas seulement le chez moi, l'appartement Bien familial. Sûr. C'est aussi le monde culturel dans lequel il y a la religion a une grande place et dans lequel le livre, le Coran, a une grande place. Mais c'est aussi un passage dans lequel j'évoque ce que ce monde culturel a de littéraire. C'est-à-dire que c'est aussi une grande attention à la parole, à une grande attention à la puissance des mots. Et je le mets en regard avec ce qui est une autre réalité, une réalité matérielle, donc un monde ouvrier, un monde précaire dans lequel la principale préoccupation, c'est la subsistance, c'est d'assurer la subsistance, et ça ne laisse pas énormément de place pour le plaisir de la lecture. Donc j'évoque dans ce passage-là le fait qu'il y a un livre avec les remèdes contre le mal de dos, parce que lorsqu'on est ouvrier, on a mal dans son corps. Il y a un livre
sur manuel d'administration aussi.
Exactement. La confrontation avec la langue administrative quand on est une personne immigrée en France, c'est quelque chose de violent, ça peut être quelque chose d'humiliant. Donc voilà, j'évoque le fait que je viens de ce monde-là, mais ça signifie pas qu'il est pauvre en termes de sensibilité aux mots. C'est au contraire une autre sensibilité à laquelle j'ai souhaité être attentive et que j'ai souhaité faire éprouver.
Mais d'ailleurs, toute la recherche, et on y viendra, de pouvoir entendre nouvellement une langue en particulier montre bien toute la place que tient la formulation, le rapport poétique au monde qu'il y a derrière cette langue et peut-être celui que l'on ne reçoit pas quand on ne parle pas la langue. Il y a vraiment tout un rapport poétique au monde qui vient. Vous parlez de la façon dont les personnes qui ont connu l'exil ou l'immigration se heurtent à la langue administrative. C'est quelque chose que vous évoquez aussi, Léonard Derecondo, dans une autre situation. Mais le labyrinthe humiliant de devoir réclamer des papiers est quelque chose que vous connaissez, prenant une décision dont on parlera tout à l'heure. Mais peut-être on peut évoquer le fait que votre père est resté apatride, que lui, il a décidé de faire un autre choix. Et je me suis dit, toutes ces personnes qui répondent au questionnaire lecture au début du book club parlent souvent de la lecture comme d'un territoire, d'un monde à habiter. Laurent Mauvigny, hier, parlait de ça. Mais peut-être, quel lecteur pouvait être votre père en lien avec le choix d'être apatride ?
Alors, déjà, c'était quelqu'un qui aimait pas lire, peut-être pour toutes ces raisons-là.
C'est intéressant.
Oui, d'immigration et de trop de langues à parler. Donc l'espagnol, le basque, dans son cas, était sa langue maternelle, et puis le français, tout petit, en arrivant en France. Donc ce micmac, disons, de mots, ça a créé une sorte de blocage qui a fait que c'était vraiment pas du tout par la littérature et par les mots qu'il se vivait et qu'il vivait son imaginaire et son terre et même sa pensée, je pense. C'est-à-dire quand il parlait, évidemment, il s'exprimait bien, mais ses idées, dès quand il y avait vraiment des choses à exprimer, il prenait un papier, un crayon, il dessinait en même temps. Le dessin a toujours été, le trait, une certaine forme de graphie, une autre écriture, a été toujours son choix d'expression. Je pense qu'il est devenu peintre, justement, parce que ça balayait toutes les histoires de langue. Et donc sa lecture, c'est la peinture. Et ça, c'était universel. Donc sinon, je l'ai vu lire quelques polars. Mais au-delà de ça, non. La littérature, c'était pas du tout son territoire, si ça devait être un, s'il devait y en avoir un. Et le fait d'être apatride, je pense que ça l'a pas du tout exclu de documents administratifs. Au contraire, être apatride, c'est encore plus de documents, encore plus, parce qu'à chaque fois, il faut se justifier de ne venir de nulle part. Et pour tout ce qui est des papiers, pour le travail, etc., il m'a très souvent dit que c'était très, très, très compliqué. Mais je pense qu'il était dans une sorte de sas, qui était un sas de loyauté par rapport à son histoire politique, par rapport à son histoire familiale.
Nasser Atamer, vous diriez que vous êtes quoi comme lectrice aujourd'hui ?
Une lectrice sans méthode. Je garde toujours cette idée de la recommandation, la personne en qui on a confiance, la personne qui nous inspire pour une raison ou une autre. Elle va être aussi l'intermédiaire entre moi et un auteur, une autrice. Des hasards, je suis encore très friande des vide-greniers et des Emmaüs et autres endroits où
on parlait d'une très belle scène avec les bouquinistes.
La seconde main, je sais que c'est pas très bien pour les auteurs et les autrices, mais ça a été aussi une manière pour moi d'accéder à la littérature, d'acheter des poches. Je me souviens très bien de l'ancien Gibert où on avait tous ces poches d'occasion. Et j'aime l'objet qu'a vécu. Et donc, je suis une lectrice sans méthode, avec des goûts, évidemment, mais qui laisse advenir ce qui doit advenir en termes de rencontres littéraires.
Et pour vous, Léonard Derecondo, ça tient quelle place aujourd'hui, la lecture, dans votre vie ?
Oh, ça tient une place importante. Ça tient une place importante parce que aussi, maintenant, je lis depuis une dizaine d'années vraiment beaucoup plus depuis que je publie. Je lis beaucoup plus de littérature contemporaine. Avant, j'en lisais un peu comme ça, au gré, justement. Puis maintenant, j'ai des amis aussi qui écrivent, donc de participer et de lire ce qui se fait au jour le jour de quelque chose de très contemporain dans la lecture. Ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi.
Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? De vous rendre, observatrice de ce qui s'écrit en ce moment?
Oui, c'est peut-être justement comment les autres sont traversés par ce qui me traverse au même moment. Quelles sont les choses qui... Bon, il y a des idées comme ça qui passent et on voit que beaucoup d'écrivains en même temps peuvent écrire sur le même sujet, et on se demande un peu comment. Donc c'est vrai que depuis une dizaine d'années, ma lecture est plus axée sur la littérature contemporaine. Je lis moins les grands classiques, ce que je regrette par ailleurs. Bon, après, le temps aussi n'est pas extensible, mais aujourd'hui, je m'autorise à ne pas continuer de lire un livre qui m'ennuie.
On va parler de vos deux romans juste après cette chanson d'Ali Awagenoun qui s'appelle Allô l'agence. Je l'avais découverte il y a quelques années, je m'en suis souvenue ce matin en repensant à votre livre Nasser Atamer. Je l'avais découverte grâce à un duo qui s'appelle Toukadim et qui exhume de vieux vinyles de musique maghrébine. Et la place occupée par les chansons en langue française dans ce patrimoine est considérable. Toukadim prépare justement d'ailleurs toute une playlist de toutes ces chansons d'un patrimoine musical maghrébin, mais chantées en français. On mettra le lien sur la page de l'émission quand ce sera prêt. Allô l'agence.
Allô, allô, l'agence, est-ce qu'il y a de la place? Allô, allô, l'agence, réservez-moi une place. Je sais que je n'ai pas de chance, j'ai perdu ma jeunesse. Je sais que je n'ai pas de chance, j'ai perdu ma jeunesse. Une fille à la tête rouge, une fille à la tête rouge. À Paris, il y a du plaisir, pas pour moi, bien sûr. Aqli yarouir al-mahna,
aqli yarouir al-mahna.
Il s'habille sur mes sur, vacances à la côte d'Azur. Ça mourti, ça gmaïe zahar,
ça mourti, ça gmaïe zahar.
Moi, je vais dans la misère, mon cœur est plein de blessures. Moi je vais dans la misère, mon cœur est plein de blessures. Yerassine, toi, haqra, yerassine, toi, haqra.
Allô, allô, l'agence,
est-ce qu'il y a de la place?
Allô, allô, l'agence,
réservez-moi une place. Je sais que je n'ai pas de chance, j'ai perdu ma jeunesse. Je sais que je n'ai pas de chance, j'ai perdu ma jeunesse. Une fille à la tête rouge, une fille à la tête rouge.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Les deux romans que nous réunissons aujourd'hui à la table de votre book club ne s'en tiennent pas au récit des vainqueurs. À l'inverse, ils tendent l'oreille à celles et ceux que l'histoire a rendus inaudibles. Les deux livres préfèrent aux images majoritaires et dominantes, spectaculaires parfois, des guerres d'Espagne ou de la colonisation, les images moins vues d'une cabine de téléphone, d'une cuisine ou d'un cours de langue par application interposée. Avec une grande question en guise de trait d'union, peut-on vivre loin de la langue des siens? Et les siens, c'est quoi au fond? Nasser Atamer, Allô la place, apparu aux éditions Verdier. Léonore de Recondo, Marcher dans tes pas, apparu aux éditions de l'Iconoclaste. Alors quand on fait comme ça, se réunir autour de notre table de romans, évidemment on le fait sur le sentiment de quelque chose, d'un écho, sans imaginer que tout s'y croiserait dans la conversation. Mais quand même ça se croise, l'attention portée à la langue et aux langues. On a déjà avancé sur cette thématique-là. Nasser Atamer, elle est première dans l'écriture de votre livre. Est-ce que vous voulez bien nous dire sur la piste de quelle langue vous vous mettez et comment est-ce que, d'une certaine manière, votre livre s'écrit à la recherche d'une langue? Au moins une.
Alors, c'est effectivement une recherche, c'est vraiment une écriture qui cherche à savoir ce qu'est cette langue familiale et que j'ai l'impression d'avoir complètement négligée presque rejeté toute une partie de ma vie et qui prend une toute autre importance un peu Il y a une vingtaine d'années, lorsque je me sépare de ma famille, ou en tout cas lorsque je m'éloigne de ma famille. Et à ce moment-là, j'ai cette question, quelle est cette langue dans laquelle j'ai grandi, qui est complètement familière et en même temps étrangère, que je maîtrise mal, que je comprends un peu, ou je comprends mieux que je ne parle. Et donc, c'est l'écriture qui me permet d'éclairer un peu cet objet-là, ce qu'elle porte de charge affective. Elle est liée à des moments très doux de l'enfance, mais aussi à des moments plus violents. Je comprends qu'elle est problématique en France, de sa place. Elle est toujours questionnée, toujours remise en question, alors que c'est la deuxième langue la plus parlée en France. Et donc voilà, je m'interroge vraiment sur ce que c'est que cette langue, et je l'apprends un peu par tous les bouts possibles, ce qu'elle me fait physiquement. Les souvenirs qu'elle réveille, j'essaye de vraiment creuser ça. L'apprentissage ou le réapprentissage me fait appréhender la langue différemment. La conversation par application interposée avec une personne qui, au début du récit, via Casablanca, me fait appréhender cette langue différemment. J'essaye de dessiner un peu comme ça, ou en tout cas c'était pas le projet, mais en tout cas ce qui se dessine c'est comme une espèce de politique de cette langue et peut-être aussi une réflexion sur ce que c'est qu'une langue et avec cette conviction que justement ça n'est pas cette chose unifiée, normative, pure qu'on essaye parfois de nous vendre avec cette pensée un peu réactionnaire. C'est au contraire quelque chose de très vivant qui vit par les marges, qui est complètement mouvant et organique.
Une des manières par laquelle elle revient à votre oreille, cette langue, ce sont les taxiphones, donc des endroits collectifs où on peut venir et passer des coups de téléphone et en effet, qui ont, avant, on va dire, l'avènement des téléphones mobiles et des puces qu'on peut plus facilement acheter, qui ont été des endroits où il était possible de rester en contact avec une famille restée au pays. C'est comme un nuage de langue, Nasser Atamer, ces endroits-là, ça vous permet quoi?
Ça me permet en fait d'espérer, de fantasmer une connexion possible avec la langue des siens, avec les siens.
Vous utilisez le même, d'ailleurs, ce verbe magnifique et si polysémique qui est joindre. En effet, joindre, c'est quelque chose qui est joindre ma famille, joindre mes parents.
C'est vrai, c'est vraiment ce fantasme que la distance pourrait être effacée à cet endroit-là, dans ces lieux, que les fractures pourraient être réparées, et voilà, une espèce de croyance dans une magie En tout cas, c'est un peu cette fascination que j'essaye d'exprimer pour ces endroits qui sont des endroits qui font le lien. Ce sont des endroits qui rendent service. Donc c'est vraiment une attention aussi que j'ai voulu porter sur ces lieux et aussi les personnes qui les fréquentent.
Et parfois même qui les tiennent, parce que vous racontez que quand on répare un téléphone ou quand on, par exemple, on peut gérer un transfert d'argent, il y a bien autre chose qui se passe autour de ce geste-là. Léonard de Recondo, la langue perdue, pas transmise, éventuellement silenciée dans votre livre, c'est le basque. Quel est le vide qui avance avec la non-transmission de cette langue dans votre livre?
C'est quelque chose en creux, je pense, qu'il y a à voir avec ma grand-mère. C'est pour ça aussi que c'est le personnage principal, puisqu'elle est porteuse de cette langue. Alors, pour le coup, incompréhensible pour moi. Et comme elle n'était pas du tout dans l'entourage familial ou autour de nous...
Cette grand-mère,
ni la langue basque. Mon père l'a parlé avec personne, sauf avec sa mère. Et il la voyait peu, donc le basque n'était pas du tout dans notre entourage, encore moins que l'espagnol, je dirais. L'espagnol que je comprenais, on arrive à capter quelques mots, mais le basque, c'est impossible. Donc quand j'allais avec mon père de temps en temps voir cette fameuse grand-mère Enriqueta, et que soudain, je le voyais s'exprimer dans une langue incompréhensible, alors que cet homme qui était mon père, je comprenais.
Il y a deux secondes, vous le compreniez.
Voilà. Il y avait quelque chose. Donc ça devenait comme une sorte d'espace extrêmement mystérieux, voire magique, voire et absolument inaccessible. Soudain, mon père parlant à sa propre mère dans cette langue maternelle qui m'échappait complètement. Et donc là, je ne comprenais plus rien. Et je pense que cette incompréhension, elle crée, donc comme je disais, un mystère qui lui-même crée un imaginaire et qui est le creuset de l'écrivain et certainement de ce qu'on vient remplir. Bon, il y a évidemment plein d'autres raisons qui font qu'un jour on s'assoit à une table et on décide d'écrire. Mais c'est vrai que ce rapport à la langue mystérieuse, inintelligible, qui encore aujourd'hui, alors je sais trois mots, j'ai moi-même pris j'ai toujours ma méthode assimile que je sors régulièrement, j'apprends trois mots, bon, ça s'arrête là. Quand je vais au Pays Basque, je l'entends parler, je dis aussi trois mots, mais une phrase, je comprends rien. Et à la lecture non plus. Donc reste ce mystère de cette femme, puisque j'ai pas connu mon grand-père, reste le mystère de cette femme parlant à son fils, qui était mon père, dans une langue qui m'était inconnue et qui est celle du paradis perdu, de l'exil. Donc c'est une sorte de un peu de poupée russe, cette langue qui évidemment, enfin non, il m'a jamais parlé basque. Et lui, comme je disais au début, là, le traumatisme et de l'exil et de la Seconde Guerre mondiale qui a suivi ont fait que il s'est intégré, il était en France, il allait parler français.
De la même manière que le Dajila et toute cette langue liée au marocain abrite une histoire et du Maroc et de la France et des histoires partagées entre le Maroc et la France, Nasser Atamer, vous diriez qu'il y a quoi dans la boîte langue basque du côté de votre livre, Léonore de Recondo ?
Alors, je dirais une identité. C'était le creuset de le fond de ce livre, c'était de ma quête d'identité, le fait que à un certain moment je décide de faire une demande de nationalité espagnole, mais en allant plus loin, la question basque dans le territoire espagnol en était déjà une évidemment au moment de la République avant 36, enfin avant que, en tout cas, que la guerre civile ne démarre, et encore plus après. Donc, ils s'en vont avec leur langue, et c'est là que ça se passe pour moi, parce que je sais que a priori, je vais pas apprendre le basque, et je rencontre une femme qui s'appelle Edurne Alegría, qui est une traductrice du basque, donc de la littérature basque vers le français, et qui a beaucoup, qui a œuvré toute sa vie à unifier la langue basque. Et qui m'a dit ça, elle m'a dit en basque, comme il n'y a pas de nationalité basque aujourd'hui, mais même dans la langue, on ne dit pas être basque, on dit avoir le basque. Et l'identité, elle est dans l'avoir et pas dans l'être. Et cette chose si profonde de ce que fait la langue à un être dans son identité, c'est là que ça se passe. Et c'est là que, pour moi, je ne serai peut-être jamais basque, donc. Le territoire de la question identitaire que je me pose vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de l'art et vis-à-vis des langues que je traverse, c'est ce qu'est l'écrivain, c'est avoir une langue pour se forger un être.
Alors c'est étonnant que vous parliez de cette distinction entre le avoir et le être, parce que dans la narration, donc on entre dans le roman directement, on est dans une cuisine, on est très près des gestes de cette femme et très près d'une date butoir dans son existence et d'un départ qu'il faut absolument précipiter pour s'enfuir de l'Espagne. Et au milieu de cette narration, il y a des séries de trouver un peu plus poétique des séries de « Je suis » Léonore de Recondo. Alors peut-être que vous n'avez pas le basque, mais vous êtes plein de choses dans ce roman. On a fait un petit montage, on écoute.
Je suis dans les minuscules sandales de mon père. Je suis dans la poigne de ma grand-mère. Je suis les confettis colorés de la fête. Je suis la bidassoa. Je suis le pont d'une génération, l'autre. Je suis l'histoire qui n'est pas écrite, la mienne et celle de mon fils. Je suis leur histoire. Pas de papier, sauf des mots. Pas d'écrit, sauf un monde intérieur. Je suis le quignon de pain. Je suis la tasse de café froid. Je suis le biscuit sec trempé. Je suis l'enfant réconforté d'entendre sa mère parler. J'écris le temps. Je suis la trace. Je la suis. Elle me colle à la peau. Je suis la mémoire de la trace trouée. Je suis l'effacement qui s'écrit. Je suis la servante à genoux du temps. Je collecte les brindilles, les pas, les voix, les corps disparus. J'écris les silhouettes en creux. Je dessine leurs contours pour que le vide apparaisse. Le vide du temps passé à écrire, qui s'inscrit dans le présent, qui passe, qui file, que je retiens, qui s'évade, m'encercle. Je me ceinture de fantômes. Nous nous peuplons, nous nous dansons, nous nous devinons.
Un extrait de votre livre, Léonore de Rocondo, en fait plusieurs extraits qu'on a mis bout à bout et où cette litanie de « je suis » avance, cherche, tâtonne. Mais ce que dit surtout ce « je suis », c'est que vous êtes très peuplé, ou en tout cas le jeu narrateur dans ce livre-là est très peuplé. Peuplé de qui ?
Des absents, de celles et ceux qui ont été, qui sont dans ce livre, de celles et ceux à venir, et de la résonance de ce jeu plus universel qui inclut les combattantes, les femmes, mais aussi dans l'exil, quand on parle d'exil, des choses infiniment quotidiennes et petites, le quignon de pain, le gâteau laissé sur la table, une tasse sale qu'on ne reverra pas, des choses comme ça très très simples. Et ce jeu est apparu de lui-même quand, en démarrant le texte, j'ai eu besoin de m'adresser à cette grand-mère, Enriqueta, et je lui dis « tu ». Et ce « tu », il est tellement frontal et il est tellement seulement elle que pour pouvoir... prendre un peu de distance et faire un pas en arrière par rapport à elle et par rapport au questionnement plus profond que je me posais dans ce livre, le « je » est apparu comme l'entité évidemment de moi-même, mais aussi de la parole d'autres fantômes, d'autres personnes, d'autres personnages et aussi celles et ceux à venir d'autres exils.
On va écouter la voix de Marilyn. Elle vous interroge justement sur le portrait premier, on va dire, dans ce livre-là, qui est celui de votre grand-mère et qui ne cesse d'être augmenté les pages passant par d'autres figures.
Bonjour le Book Club, bonjour Léonore de Rocondo. J'ai lu Marcher dans tes pas et j'ai beaucoup apprécié votre récit. Je l'ai trouvé à la fois sensible et poétique. J'ai notamment beaucoup aimé le mélange entre les souvenirs de votre famille et des passages poétiques. J'ai trouvé que cette imbrication a donné un véritable souffle à votre récit et a pu renforcer l'émotion. Vous avez notamment dessiné un portrait bouleversant de votre grand-mère, Enriqueta. Sa force et également sa place auprès des membres de votre famille. Dans votre processus d'écriture, comment êtes-vous parvenu à reconstituer ce portrait de votre grand-mère ? Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Marilyn, pour cette lecture et pour cette question. Comment, c'est aussi un comment biographique, parce que vous n'avez pas connu cette femme, Enriqueta, ou très peu. Et pourtant, le roman vous permet de la montrer dans des gestes très précis, de la cuisine, dans une lumière, dans un tissu.
Alors, ben, ça, c'est la grâce de la littérature, c'est d'incarner des personnages fictifs ou non. Alors elle, j'en ai entendu parler par mon père, donc je l'ai vue quelques fois dans mon enfance, mais j'étais vraiment toute petite et elle est décédée, je pense, quand j'avais à peine 10 ans, donc j'ai vraiment des souvenirs très très parcellaires d'elle et d'une femme assez austère, bah, très sympathique, et en plus quand elle parlait, je comprenais pas ce qu'elle me disait puisqu'elle parlait en basque. Enfin bon, elle parlait français aussi, on parlait un tout petit peu, mais c'était surtout mon père avec qui elle parlait en basque, donc je me sentais un peu exclue et il y avait quelque chose de l'ordre de la fascination de cette femme comme ça. Elle n'était pas tendre, en tout cas, je sais pas si elle m'a jamais embrassée. Donc j'ai ces souvenirs-là, j'ai les souvenirs de ce que m'en a raconté mon père, et aussi des photos où je la vois, et puis mon imaginaire. Pourquoi c'est elle à qui je m'adresse? Pour deux raisons. La première, c'est que pour pouvoir avoir ces papiers espagnols, il a fallu que je justifie l'exil et je n'avais pas de justificatif de cet exil.
Pour avoir vos papiers espagnols.
Pour avoir mes papiers espagnols. Voilà. Pour pouvoir obtenir la nationalité, il me fallait un justificatif de l'exil que je n'avais pas, puisque quand ils partent en 36, il n'y a rien. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de tampon, il n'y a rien. Mais il y a son geste à elle. Et c'était une sorte de remise en question de ce geste à elle qu'elle fait, qui est de partir avec ses enfants et ses parents et ses frères. Et ils vont traverser le pont entre Irun et Hendaye, le pont international, et au passage vont devenir apatrides. Donc c'est elle qui fait ce geste, c'est pour ça que c'est elle qui embarque. C'est ce geste à elle qui est remis en question par l'administration espagnole quand je demande ma nationalité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette adresse. Et j'avance avec elle comme toutes les autres femmes, comme toutes les photos qu'on retrouve de femmes avec leurs enfants, aujourd'hui, hier, demain, et en revoyant ces photos de d'août 36 en plein cagnard, on les voit toutes avec leurs manteaux et leurs enfants, et je me dis, quand elles sont dans leur cuisine, comme ma grand-mère qui laisse tout et son gâteau, elle est dans l'entrée et elle prend quand même son manteau, parce qu'elle sait que ce geste est certainement un des derniers dans cette maison-là. Donc elle est aussi la figure de toutes les femmes invisibles qui portent et qui tiennent une forme de résistance du foyer quand les choses s'effondrent et que les hommes sont soit au front, soit en train de prendre une parole publique et politique.
C'est aussi une photo, en tout cas il y a des photos, Nasser Atamer, dans votre livre « Allô la place ». Et là, c'est une photo floue, elle est presque au milieu du livre. De cette photo semble pouvoir presque affleurer la texture de la voix de votre mère. Une prosodie sur laquelle vous revenez plusieurs fois. Vraiment une prosodie matricielle, j'ai pas d'autres mots pour le dire. On écoute un extrait.
Sur une vieille photo prise dans notre ancien appartement HLM du Havre, ma mère est assise sur un de ses fauteuils, un brun rococo, placé à l'entrée. Elle est au téléphone. Une antiquité à cadran rotatif. Elle fixe l'objectif de son regard noir. Contre ses jambes, la tête penchée sur ses genoux, il y a une petite boule de moi. Quelque chose de tout rond, de dépenaillé, d'hirsute, d'un peu morveux. Je fixe aussi l'objectif de mes grands yeux. Ma petite main moite agrippe le cordon enroulé du téléphone. Surtout, j'ai collé à mon oreille le petit combiné qui permettait d'entendre la conversation et qui s'accrochait à l'arrière de l'appareil. J'ai 2 ou 3 ans et je fais ce geste le plus naturellement du monde. Ce geste que je sens aujourd'hui relevé de la pulsion. Un geste qui me permet d'entendre doublement la voix de nacre de ma mère. Vive, près de moi, et dans l'appareil, encore plus près de moi. Ma mère en Dolby stéréo. C'est sans doute à cet âge que la voix de ma mère, son appel, m'ont pour toujours frappée. Voix que rien n'altère, ni le temps, ni la distance. Prosodie maternelle aussi épaisse que le sang.
Nasser Atamer, Allô la place, vous le dites, c'est à la fois plusieurs pactes avec la perte, mais quand même plusieurs espoirs de retrouvailles, plusieurs espoirs de pouvoir rejoindre ou joindre, notamment la texture de la voix de la mère et peut-être des parents. comme avec un coup de fil que vous n'arrivez pas à passer, vous n'y arrivez pas, puis peut-être vous y arrivez un tout petit peu à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette matière si étrange que serait la voix de la mère? Parce qu'on a parlé de la langue, mais c'est encore autre chose, la voix.
C'est quelque chose de qui est difficile à expliquer, dans le sens où je pense qu'on la porte ces premières voix qu'on a entendues tout enfant,
in utero, même
ces premières années, et on les porte en soi, et elles sont en grande partie enfouies, et l'écriture, elle intervient pour éclairer ces zones enfouies et révéler en fait ce qu'elle recouvre, ce qu'elle porte. Et donc j'ai fait cet exercice. Alors le point de départ, c'était cette langue qu'on appelle maternelle. Donc quels étaient les premiers souvenirs que j'avais de cette langue, les premiers mots prononcés, les premiers mots entendus. Et donc il y a cette voix maternelle qui surgit, et la voix, elle ne s'altère pas, c'est-à-dire que avec quelques modifications dues à l'âge, mais on reconnaît la voix d'une personne tout au long de sa vie. C'est un peu comme le regard, on reconnaît le regard et on reconnaît la voix. Et donc, elle peut être très loin de moi, il suffit d'un message laissé sur mon téléphone pour qu'elle soit totalement présente, cette voix. Et donc, je suis partie un peu à la recherche de ça, et je pense que c'est ce qui permet aussi à toute personne de se reconnaître un peu dans ce cheminement, parce que quel que soit notre parcours, on a ça en commun, d'être traversé par ces premiers récits entendus, par ces voix de l'enfance.
Oui, on entendait au tout début de l'émission, c'était un extrait d'un documentaire radio où il était question de la langue persane qui n'était pas parlée. Et finalement, on pourrait dire, même à vous entendre toutes les deux cet après-midi, ces histoires se répètent, quelles qu'en soient les géographies ou les heures de l'histoire ou les heures politiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a quand même un motif qui se répète. Avec, en parlant de motif, Nasser Atamer, une sorte de variation que vous faites autour de l'appel. Alors bien sûr, il y a les coups de fil qui sont passés depuis ces cabines téléphoniques collective, on pourrait dire les taxiphones, mais toute l'idée d'un appel plus ou moins entendu. Il y a une personne qui entend votre appel, donc c'est sur cette appli de conversation qui s'appelle Mère. Et elle reçoit l'appel. Et d'ailleurs, le premier moment où vous échangez avec elle sur cette appli de conversation, votre mère ne répond pas. Et il y a vraiment l'idée comme ça de travailler tout un texte autour de qu'est-ce que ce serait que appeler.
Oui, il y a cette problématique qui est à la fois la nécessité pour la narratrice de trouver une adresse, quelqu'un à qui s'adresser, et la narratrice est aussi appelée, dans le sens où quelque chose l'appelle d'un manque, d'un désir à combler. Et ce personnage, qui est une personne qui existe, s'appelle Myriam. Son diminutif, pseudonyme, c'est Mère, sur cette application Tandem, qui nous permet d'échanger comme ça, dans un mélange de darija, donc cette langue marocaine, de français, d'anglais, et on échange sur nos vies, nos quotidiens, et ça alterne ces échanges avec des appels plus ou moins manqués avec ma mère. Et donc, il y a effectivement un renvoi à cette question de comment se relier à ses proches. Oui, l'appel, c'est un motif parce que pour moi, il condense un peu tout ce dont on parle de se relier. Il agit aussi sur la manière dont on parle, sur ces voix dont on a parlé. Il agit sur la manière d'écouter. Donc, c'est vraiment l'essence de ce que je recherchais. C'est-à-dire qu'est-ce qui appelle. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, de retrouver ce qui est essentiel.
Et il y a peut-être aussi en passer par un appel à cette femme-là sur l'application de conversation, et ça marche. Et donc c'est aussi toutes les choses qui vont marcher dans cette langue qui sont peut-être ok, qui vont être en parallèle avec tout ce qui échoue, tout ce qui rate dans les coups de fil passés aux parents, mais n'empêche que petit à petit, tous les coups de fil qui marchent ou les échanges qui marchent permettent à la fin du livre qu'il y a un coup de fil qui fonctionne. De la même manière, Léonore de Recondo, il y a aussi, par exemple, je pense au personnage de Elisa, une amie qui pourrait presque être, oui, une amie détour, ou le personnage du fils aussi, qui pourrait être, vous parlez depuis tout à l'heure d'un avenir, d'un en avant. C'est pas toujours simple de trouver le bon chemin pour se relier aux générations passées, et vous aussi, vous avez des chemins de traverse.
Ah oui, et puis je pense que aussi dans ces histoires familiales, il y a des familles autour qu'on se choisit. Il y a une sorte de deuxième cercle qui vient en résonance nous relier au premier. Et c'est pour ça, quand je dis aussi, on a nos fantômes et on a aussi nos amis, et finalement on est très très peuplé. Enfin, on avance groupé dans une vie, on n'avance pas seul. Et cette élection familiale de gens que j'aime, et notamment cette grande amie que j'ai, Elisa, qui est espagnole et qui est évidemment qui est rentrée en résonance avec mon histoire espagnole cachée. Et c'est la personne avec laquelle je parle espagnol quotidiennement. C'est elle aussi qui m'a permis de ressentir comme l'Espagne était en moi. Et c'est elle qui parlait espagnol avec mon père. Donc elle est rentrée dans la famille comme une forme de cousine, comme une sœur. Enfin, toutes les appellations sont possibles pour elle, sans pour autant être biologiquement là. Mais je pense que on a besoin comme ça de sorte de référents, de miroirs qu'on choisit, et certains qui sont là toute une vie. Et on a beaucoup beaucoup de chance d'avoir ces amis qui nous accompagnent, qui sont aussi une forme de mémoire du temps. C'est-à-dire, Elisa était là, elle a connu mon père, elle sait, je peux faire appel à elle quand j'oublie. Et ces personnes-là sont aussi ma famille et marchent avec moi.
Oui, d'ailleurs, le marché à tes côtés, on sent bien que c'est une marche très très dans tes pas, pardon. Que c'est une marche très collective. C'est très beau ce qui se tisse entre mère et vous, la narratrice. Il y a quelque chose aussi comme ça de marcher ensemble, parce qu'elle aussi, elle vous raconte des choses. Elle vous raconte des choses de sa vie à Casa. Elle vous raconte des choses du départ qu'elle fait pour Ottawa. Enfin, vous marchez vraiment ensemble, quoi. D'ailleurs, Tandem, c'est le vrai nom de l'appli.
Oui, tout à fait.
Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quoi. Vous tenez la main pendant un temps, quoi.
Oui, tout à fait. C'est une vraie rencontre. Et je rejoins ce que vient d'évoquer Léonore, c'est-à-dire que ce sont des sources d'espoir, en fait. C'est des raisons d'espérer que de trouver justement des compagnons de route. Et cette problématique qui traverse le récit, de trouver sa place, donc avec qui être aussi, eh bien, ce type de compagnonnage y répond. Il y a également aussi le fait de se retrouver avec le collectif, c'est-à-dire que c'est un récit personnel, mais c'est aussi... À plusieurs endroits, j'évoque le fait d'occuper la place publique pour exister et faire entendre sa voix. Donc, il y a ces rencontres, comme avec Mère, qui est vraiment un moyen aussi, oui, d'avancer et d'espérer. Et puis, il y a aussi le fait d'exister collectivement.
Oui, c'est tout ce que vous appeliez tout à l'heure la politique de la langue, et une fois qu'on a parlé juste une langue perdue, ça n'est pas que une langue perdue, c'est aussi tout ce que ça raconte d'une place si difficile à négocier. Et ça, vos deux livres en font écho à des endroits et des géographies différentes, mais on a parlé des labyrinthes infinis et humiliants de l'administration, mais il y a aussi je crois que c'est vous, Léonore de Recondo, qui parlez de la différence entre l'identité et la nationalité. Je crois que c'est vous, Nasser Atamer, qui parlez du, finalement, identité peut-être plus frontalière qu'autre chose. L'une et l'autre, vous travaillez cette idée-là de la place possible, pour reprendre un mot de votre titre, une place possible, Nasser Atamer.
Oui, exactement. C'est l'inventivité qu'on peut s'octroyer dans dans tous ces on va dire catégories ou assignations. Et en fait on peut à tous les âges décider en fait et de sa langue et de sa place et c'est riche et voilà, il y a beaucoup de mélancolie dans mon récit, mais il y a aussi toute cette joie
à s'inventer,
à se créer sa place.
Oui, vous dites, Léonore de Recondo, à un moment donné dans votre livre, qu'est-ce que je fais encore là, au mi-temps de ma vie, alors que j'ai déjà publié il y a plus de 10 ans un livre sur cette question du franquisme, de l'exil. Mais on sent que c'est un en avant, c'est aussi une invention d'une place possible.
Oui, puis je pense que les choses sont mouvantes, c'est ce que dit aussi Nassara, c'est que les places peuvent changer justement et que les frontières, ce qui est bien, c'est de les faire bouger et c'est de passer d'un côté à l'autre et que dans une vie, il y a des moments, il y a 20 ans, je regardais cette histoire-là d'une certaine manière et aujourd'hui, je me retourne et je la pense différemment et qu'on a le droit de changer et que les choses, voilà, changent avec nous et qu'on est sans cesse traversé, sans cesse en mouvement. Et la frontière, c'est le mouvement, la langue, c'est le mouvement, et il faut jouer avec.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Déjà 15h50, comme chaque mardi, c'est l'heure de vous retrouver, Mathilde Wagmann, pour parler un peu littérature jeunesse. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Et aujourd'hui, Mathilde, vous commencez par nous raconter une histoire.
Oui, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Alma, qui en a marre qu'on lui dise de mettre sa capuche et qui dans la vie aime beaucoup courir, s'amuser, un peu moins obéir aux adultes. Bref, Alma, qui est aussi la narratrice de cette histoire, elle est comme nous, à ce petit détail près que sa capuche est en peau de renne et que 28 000 années nous séparent d'elle. Au début du récit, elle chaparde d'une petite statuette taillée par sa mère, qui en plus d'être une excellente chasseuse, est aussi sculptrice. Alma la cache dans sa capuche parce qu'elle est très belle et aussi parce qu'elle a quelque chose de magique, cette statuette, et qu'Alma a envie de la voir avec elle en cette journée dont tout le monde lui dit qu'elle va être particulière. Puis Alma va à la rivière avec ses amis, elle va jouer dans la carcasse d'un mammouth trouvé sur le chemin avant de se voir appeler par un homme du groupe à aller retrouver sa mère car, je cite, « le moment est arrivé ». Alma rejoint sa mère qui, avec son gros ventre, fait les 100 pas dans la grotte et se plie régulièrement en deux. La mère demande à Alma si c'est elle qui a pris la statuette. Alma avoue, a peur d'être grondée, mais la mère n'est pas fâchée. Serrant dans une main la statuette, dans l'autre la main de sa petite fille, la mère d'Alma, dans la grotte, donne naissance à un petit être. Et c'est un moment extraordinaire et Alma pleure un peu.
Bon, le moment est venu de nous dire quel est le titre de cette histoire et qui en est l'autrice ou l'auteur, Mathilde.
Cette histoire s'appelle Alma et la Vénus d'Ivoire et elle est signée de l'une de vos invitées du jour, Marie. J'ai nommé Léonore de Recondo, ce qui me donne l'occasion rare et un peu intimidante de parler d'un livre sous le regard de celle qui l'a écrite. Elle a paru dans la collection Les Contes du Muséum, dont le principe consiste à proposer à un auteur ou une autrice d'imaginer un récit en partant de l'une des pièces issues des riches collections de ce vaste ensemble muséographique qu'est le Muséum National d'Histoire Naturelle. Le point de départ de cette histoire-là, c'est une petite statuette blanche de 15 cm de longueur, de 6 cm de large et 4 de profondeur, un objet qui tient dans le creux d'une main et fut taillé dans de l'ivoire de mammouth environ 27 000 ans avant notre ère. Une statuette que l'on appelle la Vénus de l'Espugue et qui fait partie des collections du Musée de l'Homme. Elle a été découverte en 1922 lors de fouilles menées par un archéologue, René de Saint-Périer, et son épouse, l'historienne Suzanne de Saint-Périer, dans une grotte préhistorique située à l'Espugue dans les Pyrénées. Elle se trouvait sous terre lorsqu'un coup de pioche l'a sortie de quelques 29 000 années d'oubli.
Et avant que je m'étouffe, dites-nous pourquoi est-ce qu'on l'appelle Vénus, cette petite statue ?
Eh bien, tout simplement parce qu'elle représente une femme dont les seins, les fesses et le ventre ont une proportion exagérée par rapport au reste de son corps. Pour notre œil contemporain, elle évoque la forme de certaines sculptures de Brancusi ou de silhouettes de Picasso. Ce dernier fut d'ailleurs fasciné par elle, dit-on. Comme nous l'apprend le préhistorien Éric Robert dans un entretien placé à la fin du livre, on a découvert en Europe d'autres statuettes du même style, dont certaines sculptées à la même époque, jusque dans les plaines de l'Oural en Russie. Certaines sont faites comme elle en ivoire de mammouth, d'autres en calcaire, en calcite ou en crème. après. Toutes les Vénus de cette époque, que l'on appelle le gravettien, ont un peu la même configuration, avec les mêmes parties du corps mises en valeur. On en connaît aussi qui datent d'autres époques de la préhistoire, avec un style un peu différent, la plus ancienne découverte en Allemagne ayant 40 000 ans. Ce qui fait de la Vénus de Lespugue un joyau entre toutes, c'est son caractère absolument symétrique et la finesse de son taillage. Elle a été découverte seule, mais d'autres Vénus montrent qu'il a pu y avoir des fabrications en série. Autrement dit, Marie, pendant plusieurs milliers d'années, nos ancêtres ont sculpté des statuettes de femmes dans ce que l'on pourrait appeler un style commun, des Pyrénées à l'Oural. Quelles étaient leurs fonctions? Quelle valeur avaient-elles pour ces hommes et ces femmes? Avaient-elles une place dans leur vie quotidienne? Revêtaient-elles une dimension symbolique? Le caractère développé des seins et des fesses renvoyait-il à la fertilité? On ne peut pas le savoir et ce mystère en fait un formidable terreau pour l'imaginaire. Plus on la touche et plus on la regarde, plus elle se remplit de nos rêves, dit la mère d'Alma dans le récit de Léonore de Recondo. Le fait que l'autrice ait imaginé que sa créatrice soit une femme et qu'elle la mette en scène un jour où elle donne la vie, donne à cette histoire un caractère particulièrement émouvant. Émotion redoublée par la beauté des illustrations de Maxime Sudol, qui compose une série de pochoirs dont on pourrait presque imaginer que nos lointains ancêtres artistes auraient pu les réaliser. Je ne connaissais pas l'existence de cette statuette avant d'avoir lu ce livre, Marie. Je lui dois de m'être ce week-end rendue au musée de l'Homme, qui se trouve dans le Palais de Chaillot à Paris, face à la Tour Eiffel. J'ai arpenté les beaux espaces de son exposition permanente jusqu'à cette petite salle, plongée dans une pénombre délicate où la Vénus repose, et je ressentis face à elle une émotion d'une intensité rare. Lisez Alma et la Vénus d'Ivoire, et si vous n'êtes pas trop loin, si vous passez dans le coin, allez rencontrer cette grande petite dame, elle est sublime, elle vous attend.
Oh là là, c'est trop bien. C'est bientôt les vacances scolaires, on a
absolument.
Voilà, prendre des trains, des vélos, tout ça. Merci beaucoup Mathilde. Lecture jeunesse sur franceculture.fr. Désolée pour la quinte de tout. À cette heure-ci, le Book Club, quand j'ai encore de la voix, on joue au grand jeu des pages musicales. Et on a trouvé de la musique dans votre livre, Nasser à ta mère, donc on se quitte avec un extrait de Allô la place. Je regarde un film sur les Sherhats. On les voit parées, long caftan de soie, chevelure sombre, lèvres rouges. Elles chantent, mais c'est plus qu'un chant. Je me dis que j'aimerais écrire comme elle chante, écrire comme un scandale, comme une chef qui détache ses cheveux sur ses épaules, qui a du coffre. Écrire d'il y a longtemps, ce qui reste d'avant, avant les bidonvilles, les ferries, les chantiers, les HLM, le chômage, le mépris. Écrire ce qui ricoche de montagne en montagne, écorche l'âme, fait corps avec la roche depuis on ne sait même plus quand. Écrire le conte qui coule lent de voix en voix, voix qu'on écoute le dos contre un mur de parpaing, le regard rivé au ciel noir, voix au moelleux de voix lactée, voix griffue de chats errants, de petites filles furieuses, écrire comme une chéra, le cœur bien accroché, qui tient la distance, qui se compte au quart du contremaître, qui ne lâche rien. Écrire le souffle ample, sans point de côté, écrire en ultrason, la joie sourde, la colère aiguë, écrire pour venger les voix tues. Le chant des Sherhats s'appelle le Haïta, l'appel. تشربي السطور كل نقوف البكا الكوبيدا وعيد فيني دابا يجي المعد بني دابا يجي دابا يجي يا الحبيبة دابا يجي وخيتي يا خيتي شحال طرتي ايوا ايوا j'écouterai ça très longtemps. Merci beaucoup, Léonore de Recondo. Marcher dans tes pas, apparu aux éditions de l'Iconoclaste. Et puis, on en a parlé un petit peu. Goya, de père en fille, apparu aux éditions Verdier. Merci d'avoir été avec nous dans le Book Club. Nasser Atamer, votre livre Allô, la place, apparu aux éditions Verdier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au son aujourd'hui, c'était Nicolas Bonnet à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier Garance Roubi aujourd'hui.